Tout de suite, c'est le journal d'Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Un plan d'action sur l'immigration et l'asile, présenté ce matin en Conseil des ministres, il vise à réduire les délais d'instruction des demandeurs d'asile, mais aussi à obtenir l'éloignement effectif des déboutés. Précision de Christine Monclat dans un instant. Édouard Philippe veut créer un souffle fiscal susceptible, dit-il, de relancer l'économie. Il annonce des baisses d'impôts massives dès 2018, évaluées à près de 11 milliards d'euros. Analyse de Camille Magnard et de notre invité Éric Heyer de l'OFCE. Le bureau politique des Républicains a finalement choisi de ne pas trancher sur l'éventuelle exclusion des 6 responsables LR pro-Macron. La question est renvoyée à l'automne. Point de vue de Stéphane Robert dans cette édition. Les premiers éléments de l'enquête confirment le suicide du juge Jean-Michel Lambert, qui avait mené les premières enquêtes et investigations sur la mort de Grégory Villemain au début de sa carrière. Il incarnait la solitude du juge d'instruction, sur laquelle d'ailleurs le législateur s'est penché par la suite, mais sans beaucoup de résultats concrets. Dossier suivi par Florence Turme. Le rapport de l'Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation sur les comportements alimentaires des Français. La sédentarité progresse de manière alarmante, affirme-t-il. Les scientifiques notent l'explosion en 7 ans, notamment du temps passé devant les écrans, compte rendu d'Aurélie Kiffer. Aux États-Unis, les géants du net manifestent en ligne aujourd'hui pour défendre le principe de la neutralité, devant garantir l'égalité de traitement de tous les flux de données sur Internet face à la menace de l'administration Trump. Explication et enjeu avec Catherine Pétillon à la fin de cette édition. Voilà donc un plan d'action sur l'immigration et l'asile qui a été présenté ce matin au Conseil des ministres, autrement nommé plan migrant, qui est censé tenir l'équilibre entre accueil des réfugiés et fermeté migratoire. Lors de sa déclaration de politique générale, Édouard Philippe en avait dévoilé quelques grandes lignes la semaine dernière, avec d'une part l'exigence de réduire les délais moyens d'instruction des demandes d'asile de 14 à 6 mois, et d'autre part d'obtenir l'éloignement effectif des déboutés qui sont en réalité des migrants économiques. C'est ce que disait le Premier ministre. Autrement dit, donc, on accélère les procédures, soit les procédures d'accueil, soit les procédures d'expulsion, pour réduire finalement, au bout du compte, le nombre de migrants effectivement présents sur le sol national. C'est en tout cas l'objectif. Christine Monclat, bonjour.
Bonjour Antoine.
La conférence de presse va commencer dans quelques minutes, je crois. Est-ce que vous avez des précisions déjà sur les intentions du gouvernement ?
Ben effectivement, vous avez presque tout dit. Un droit d'asile mieux garanti et des flux migratoires mieux contrôlés, ce sera l'intitulé de ce plan d'action, qui vont tous les deux effectivement dans le même sens, celui d'une réduction de l'immigration. Alors le droit d'asile effectif, il passera par des délais raccourcis. Édouard Philippe avait parlé lors de son discours de politique générale de 6 mois instruction et recours compris, c'est-à-dire à peu près 3 fois moins qu'aujourd'hui. Et derrière, il faudrait que l'expulsion des déboutés soit effective. Alors on attend sur ce point avec beaucoup d'intérêt l'avis et la méthode que proposera Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, car effectivement expulser tous les déboutés, cela reviendrait à reconduire à la frontière plusieurs dizaines de milliers de personnes par an. On sait que la ministre de l'Intérieur bis, Jacqueline Gourault, a récemment réuni tous les préfets de France à ce sujet. Le droit d'asile effectif, c'est aussi plus de points d'accueil, une répartition plus équitable sur le territoire de ces migrants, ce qui reprend ici d'ailleurs une demande d'Anne Hidalgo, mais les services de Matignon assurent que ce plan n'a pas été concerné avec la maire de Paris. Et puis il sera également annoncé dans quelques minutes la création d'un comité de pilotage pour l'accès aux droits des migrants sur tout le territoire national, et cela se fera sous l'égide de la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. C'est un plan interministériel en effet, qui a été donc élaboré avec l'Intérieur, la Justice, les territoires et aussi les affaires européennes. Tous les ministres seront là dans quelques instants autour du Premier ministre. Les affaires européennes, car le contrôle des flux migratoires, ce sera plutôt de ce côté-là que la France va essayer de porter le fer. Elle a plaidé la semaine dernière ou en début de semaine au Conseil des affaires intérieures de Tallinn pour une règle commune d'asile et une externalisation du contrôle dans les pays d'origine ou du nord de l'Afrique. Voilà pour les grandes lignes de ce plan d'action qui va être dévoilé dans quelques instants.
Voilà, tout n'avait donc pas été dit dans le lancement. Merci beaucoup Christine Monclat en direct de cette conférence de presse. Vous étiez avec Raymond Albouy. On parlait jadis de choc fiscal et voici maintenant une autre expression, le souffle fiscal. Après l'annonce par le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, c'était hier, de 4,5 milliards d'économies, et ce, sur le budget de l'État donc dès cette année, Édouard Philippe revient ce matin dans une interview aux Échos sur sa stratégie globale, la stratégie budgétaire du gouvernement, et il annonce, lui, des baisses d'impôts assez fortes dès 2018, dès l'an prochain, donc évaluées à près de 11 milliards d'euros. Et ce, donc, dit-il, pour créer un souffle fiscal susceptible de relancer l'économie française. Camille Manière, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors de quoi ce souffle est-il fait ?
Eh bien, il est fait de l'application, finalement, dès l'an prochain, des mesures, des baisses d'impôts dont Édouard Philippe avait annoncé la semaine dernière devant les députés qu'elles seraient reportées à 2019. Accélération du calendrier, donc dès l'an prochain, l'impôt sur la fortune, l'ISF, va disparaître pour laisser place à l'IFI, une taxation qui ne s'appliquera plus qu'aux fortunes immobilières des ménages les plus aisés. Un geste fort et un bénéfice immédiat chiffré à 3 milliards d'euros pour la frange la plus riche, donc de la population française, laquelle va aussi bénéficier à plein de la flat tax, ce prélèvement forfaitaire unique fixé à 30%, mis en place sur les revenus de l'épargne. Car ce souffle fiscal, il doit, c'est le Premier ministre qui le dit, jouer en faveur de l'investissement, donner de la croissance aux milieux économiques. Pour le reste des ménages français, l'annonce phare chiffrée à 3 milliards d'euros également pour l'année prochaine, c'est la réforme de la taxe d'habitation. À quoi s'ajoutera pour les actifs la baisse des cotisations sociales pour les salariés dès le 1er janvier prochain. Il faut aussi, bien sûr, ajouter à ce total les baisses d'impôts qui avaient déjà été prises à la fin du quinquennat Hollande, qui ne sont pas remises en cause par le gouvernement Philippe. Il devrait y en avoir pour plusieurs milliards d'euros, la plupart bénéficiant aux entreprises via le CICE.
Baisse d'impôts donc, mais dans le même temps, comme on dit maintenant, le Premier ministre annonce pour 2018 20 milliards d'économies pour respecter les fameux 3% européens. Alors où seront prises ces nouvelles économies ?
Eh bien là, on en revient à ce qu'on disait hier, à cette même heure, Antoine, sur les annonces du ministre Darmanin. L'État appelé à nouveau à trouver des milliards d'euros d'économies dans ses dépenses de gestion, son train de vie. Édouard Philippe en dit à peine plus dans l'interview aux Échos, sauf qu'il confirme qu'il y aura bien des diminutions d'effectifs dans la fonction publique, et ce, dès l'an prochain. Il va falloir trouver les postes à supprimer, ministère par ministère, direction par direction, dit le Premier ministre, avec des départs à la retraite non renouvelés, par exemple. Il évoque aussi un effort attendu des collectivités locale. Pourquoi pas, dit-il, une réduction du proverbial millefeuille administratif. Une piste évoquée, supprimer un niveau de collectivité, département, intercommunalité ou commune dans certaines régions, pas forcément dans toutes. Reste à savoir, Antoine, si ça suffira à dégager 20 milliards d'euros d'économies dans les administrations, des administrations qui ont déjà été largement dégraissées ces dernières années.
Camille Manière, merci. On salue notre invité Éric Heyer. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc directeur du département analyse et opinion à l'OFCE. Au niveau macroéconomique, comment est-ce qu'on peut juger maintenant qu'on a fini cette séquence des déclarations et des intentions sur le plan économique ? Comment juger la pente suivie par le gouvernement ? Parce qu'on a un peu le sentiment qu'on appuie sur l'accélérateur et en même temps sur le frein.
Oui, mais on appuie un peu plus sur le frein que sur l'accélérateur quand on regarde les milliards d'euros en jeu. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a plus de réduction de dépenses. Il y a aussi quelques augmentations de prélèvements obligatoires, d'impôts, parce qu'il y a une taxe écologique normalement qui est prévue. Il y a également la taxe tabac. Vous voyez qu'on doit augmenter aussi la fiscalité sur le tabac. Enfin, tout ça fait que globalement, on va un peu plus, puisque l'enjeu quand même premier, c'est de réduire les déficits. On va demander un peu des efforts. Alors c'est ça qui va être assez intéressant, c'est savoir qu'il y aura des gains et des perdants. C'est-à-dire que, effectivement, c'est la répartition de ces gains et de ces pertes. Il y aura plus de pertes que de gains.
Qui vont être les gagnants et les perdants, là ?
Assez facilement, on peut dire que ce sont quand même les premiers déciles de revenus, c'est-à-dire les personnes les plus aisées qui vont bénéficier en grande partie de ces mesures-là, puisque, certes, il y en a un peu pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a, effectivement, ça a été rappelé, la flat tax et l'ISF qui sont supprimés.
Pour les riches.
Ça, c'est plutôt pour les riches. Sur la classe moyenne, c'est plutôt la taxe d'habitation. Et sur les ménages modestes, c'est plutôt les allocations handicapées.
Sauf qu'il y a quand même plus de gens modestes que de riches.
Mais après, la dépense publique, lorsque vous enlevez la dépense publique, ça va toucher plus les premiers déciles de revenus bas, c'est-à-dire que les plus pauvres, parce que c'est des transferts en nature. Donc globalement, quand vous faites cela, alors il faudra regarder ça dans le détail au moment où on va voter le budget à la rentrée, mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que ça va un peu plus profiter aux classes aisées, mais c'est, je crois, une volonté de la part de ce gouvernement, qui est, vous voyez, la théorie du ruissellement. Si vous aidez plutôt les classes aisées, au bout d'un moment, ces classes aisées leur bien-être va permettre d'améliorer le bien-être des autres. C'est une théorie.
C'est une théorie. Est-ce qu'on peut revenir au niveau macroéconomique peut-être parce que le Premier ministre dit qu'on va relancer l'économie avec ce système-là, alors que c'est plutôt restrictif apparemment.
À court terme, c'est plutôt restrictif. Donc effectivement, là, on peut dire sans trop prendre de risques que ça va plutôt peser sur l'activité. Ça va pas casser la croissance économique. C'est-à-dire qu'on est quand même sur un sentier de croissance qui s'accélère. Ça va juste amputer de quelques dixièmes points de croissance l'activité, mais ça va pas remettre en cause le rebond. Le grand pari du gouvernement, c'est de dire si ça casse un tout petit peu à court terme, ça va l'améliorer dans le long terme. Mais vous voyez que dans le long terme, on risque d'être tous morts.
Voilà, avec le ruissellement aussi peut-être de cette croissance, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Eric. Hier, on va rester sur l'économie, mais sur le volet maintenant social, puisque l'autre projet du gouvernement, c'est la réforme du Code du travail. Les députés ont adopté hier après-midi le premier article de ce projet de loi qui habilite le gouvernement donc à modifier par ordonnance le Code du travail, disposition qui confère une place centrale donc aux accords d'entreprise dans la hiérarchie des normes du droit du travail. Et il se trouve que le Sénat brésilien a adopté hier également une réforme du même genre qui donne notamment la priorité aux accords d'entreprise sur les conventions collectives, qui renforce la flexibilité des contrats de travail ou encore limite le champ d'action de la justice du travail. Anne Lorchouin, bonjour.
Bonjour Antoine.
Évidemment, ce matin, on a été frappé par la ressemblance de ces deux plans, ce qui est une tendance lourde à la libéralisation du droit du travail.
Alors d'abord, notons que le Brésil est considéré à la fois comme le pays où il y a le plus de litiges concernant le droit du travail et partant où le code du travail est le plus rigide du monde. Ceci étant posé, il apparaît depuis longtemps déjà que partout dans le monde, la tendance est effectivement à la libéralisation du droit du travail et cela date des années 90, voire 80, mais depuis la crise, cette libéralisation est vendue par les gouvernements du moins comme une solution pour endiguer à long terme le chômage de masse. Lorsqu'en 2008, la crise survient à la fois financière, économique et budgétaire, les difficultés de croissance que connaissaient déjà les économies sont devenues patentes et ce mantra se fait plus pressant. Notamment, on s'en souvient, en Irlande, au Portugal, en Espagne et en Grèce, où la Troïka et les marchés financiers ont exigé que les gouvernements réforment en profondeur leur marché du travail, condition pour continuer de bénéficier de taux d'intérêt raisonnablement bas. C'est la même pression qui s'est exercée sur la France, quoique de façon moins intense. Alors oui, la dérégulation du droit du travail est une tendance générale, même si elle est plus ou moins marquée selon les pays, avec ce cas particulier de l'Allemagne, qui avait mis en place ce genre de réforme bien avant la crise, suite à une autre crise interne, celle-là de la réunification. Tout cela a-t-il porté ses fruits? À court terme, c'est loin d'être évident. À moyen et à long terme, c'est également difficile à dire. Ce qu'on observe depuis la crise, c'est à la fois une augmentation de la pauvreté au travail et de la pauvreté en général, qu'on ne peut pas imputer de façon mécanique aux réformes du marché du travail, mais qu'on peut en tout cas constater malgré ces réformes. Idem sur la hausse des inégalités, qui là encore sont d'origine multifactorielle.
Merci beaucoup Anne Lorchouin. Eric Ayer, sur cette question également, votre point de vue. Est-ce qu'on vous diriez que les recettes libéral au sens large, on le vend en poupe encore dans le monde, si on prend les choses très globalement, ou est-ce qu'au contraire il y a des freins qui s'instaurent?
Alors je pense qu'effectivement dans certains pays ça le vend en poupe, et alors les pays qui sont allés très loin, c'est-à-dire qu'on peut penser aux pays anglo-saxons, sont en train d'y revenir. C'est-à-dire qu'on voit bien que ces recettes ont permis aux États-Unis, au Royaume-Uni de revenir au plein emploi, mais aujourd'hui tout de même il y a un sentiment de déclassement très fort dans ces pays-là, et donc malgré le plein emploi, on voit bien que les richesses sont mal distribuées, et donc ça provoque dans ces pays-là un repli sur soi et donc un renoncement à ces recettes libérales.
Mais parce qu'ils en profitent moins, j'imagine.
Donc on se rend bien compte que juger de l'efficacité d'une politique économique à l'aune d'un seul critère qui est le taux de chômage est sans doute pas une très bonne façon de faire, puisque le taux de chômage pouvait être au chômage mais être dans la pauvreté, dans l'emploi mais être dans la pauvreté, donc il n'y a pas de lien complètement direct. Non, ce qu'il y a vraiment de plus global, c'est qu'on peut considérer qu'effectivement il y a un nouveau monde qui est en train d'émerger avec les nouvelles technologies, et ce nouveau monde est assez présent, et donc il y a la tentation de se dire il faut laisser ce nouveau monde émerger plus rapidement et donc lever toutes les barrières qui pourraient empêcher ce nouveau monde de naître. Sauf que ce que l'on voit de façon assez précise, c'est que les emplois créés dans ce nouveau monde sont d'une qualité bien inférieure aux emplois qui étaient créés dans l'ancien monde.
Qualité, c'est-à-dire au niveau
Une qualité à la fois dans les salaires, une qualité dans la durée du travail, une qualité dans les relations sociales. Et donc, il va falloir falloir, et dans la protection sociale, et donc il va falloir créer des nouveaux droits à ces nouveaux emplois. Et donc c'est là où le triangle d'incompatibilité d'Emmanuel Macron va, et on va rejoindre donc le premier.
C'est-à-dire
finalement, c'est-à-dire que globalement, il faut flexibiliser, pourquoi pas, mais il faut protéger, mais simplement vous voulez aussi réduire les déficits. Donc comment fait-on pour flexibiliser, réduire les déficits et donner plus de protection?
Comment on fait?
Eh ben, s'il faut faire des choix. Et donc là, le choix apparemment de ce gouvernement, c'est plutôt de flexibiliser et de réduire les déficits. Et donc, ça veut dire qu'il y aura moins de protection.
Merci beaucoup, Éric Ayer, d'avoir accepté notre invitation. On va continuer à parler de ce monde nouveau, puisque on va aux États-Unis et on parle du net, des géants du net, Facebook, Amazon, Snapchat et aussi Pornhub, mais aussi Mozilla. Des dizaines d'ONG manifestent en ligne aujourd'hui pour défendre la neutralité du net. Qu'est-ce que c'est? C'est un principe qui doit garantir l'égalité de traitement de tous les flux de données sur Internet et qui exclut, par exemple, toute discrimination à l'égard de la source, de la destination ou même du contenu de l'information transmise par le réseau. Par des messages, donc des bannières, des vidéos, et il y a des milliers de sites qui participent à cette journée de mobilisation pour alerter le grand public sur le risque d'un Internet à deux vitesses et pour protester surtout contre les menaces que fait peser en ce moment l'administration Trump sur cette fameuse neutralité. Catherine Pétillon, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors, en quoi l'égalité de traitement des contenus sur le web est-elle aujourd'hui menacée?
Alors, pour le comprendre, il faut regarder ce qui se passe du côté de l'autorité américaine de régulation des télécommunications, la FCC. À sa tête, Trump a nommé un certain Ajit Pai, cet ancien conseiller du gros opérateur américain Verizon, est connu comme un opposant revendiqué à la neutralité du net. Et pour le dire autrement, c'est un important soutien des opérateurs, en très gros ceux qui possèdent les tuyaux. Ces dernières semaines, la FCC a entrepris de revenir sur les règles édictées sous Obama. Elles représentent, je cite, des fardeaux injustifiés pour les opérateurs, a expliqué sans embâche Ajit Pai à son arrivée. Alors de quoi s'agit-il? En 2015, un décret avait reconnu Internet comme un bien d'utilité publique et garanti à tous les Américains un égal accès à tous les services. En pratique, cela veut dire l'interdiction pour les fournisseurs d'accès de faire payer des frais supplémentaires aux internautes. C'est donc aussi une manière d'empêcher ces opérateurs de favoriser leurs propres services. D'ailleurs, à l'époque, cette décision avait provoqué la levée de boucliers des opérateurs qui perdaient là une manne potentielle. Alors, sous l'impulsion de son nouveau directeur, la FCC a voté en mai une proposition visant à remettre en cause ces règles. La neutralité du net est donc bien entamée, mais pas encore enterrée. Une consultation publique de plusieurs mois s'ouvre ces jours-ci, à l'issue de laquelle le texte pourra être amendé et voté, cette fois définitivement par la FCC. Avec cette mobilisation, les acteurs du numérique espèrent donc avoir voix au chapitre.
Géants des contenus contre géants des tuyaux. En tout cas, ces géants du net défendent le principe de neutralité. Et ils semblent avoir les mêmes intérêts finalement que les simples usagers ou ceux qui ne sont pas aussi gros qu'eux. Comment comprendre cette convergence d'intérêts de finalement tous les utilisateurs?
Alors, déjà, officiellement, en tout cas, tout le monde défend ce principe, même les opérateurs, même si en réalité, ils ont fait des séries de procédures en justice pour tenter de contourner ces règles. Leur message, c'est que le développement des infrastructures nécessaires pour assurer l'augmentation du trafic et dont ils ont la charge coûte cher. Et ils estiment que les règles de 2015 les empêchent d'avancer. Ce que montre cette mobilisation, c'est que les opérateurs font figure d'ennemis communs pour des acteurs aux motivations diverses. À l'origine de cette campagne appelée « Bataille pour l'Internet », il y a des ONG et elles ont mobilisé plus de 200 sans organisation et surtout cette fois de nature très différente. Les grosses entreprises qui fournissent des contenus, Netflix, Apple, Pornhub et tous les autres, ne veulent pas payer plus et disent que les internautes ont droit à une connexion de qualité. Mozilla et les acteurs du logiciel libre soulignent eux que c'est ce qui permet la créativité et l'innovation. De leur côté, plus de 800 startups ont adressé une lettre ouverte à la FCC. Elles soulignent que la fin de la neutralité du net, cela voudrait dire laisser les fournisseurs d'accès à Internet choisir les gagnants et les perdants du marché. Enfin, les ONG de défense des libertés numériques insistent sur la menace que cela ferait peser sur la liberté d'expression. Ces arguments ont en commun de vouloir se défendre contre un trop grand pouvoir que pourraient prendre les opérateurs et la tentation de favoriser leur contenu dans leurs tuyaux.
Catherine Pétillon, merci beaucoup. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site franceculture.fr avec des dossiers spéciaux sur cette neutralité du net et la journée mondiale de mobilisation. Alors, on va rester dans le sujet, mais de l'autre côté de l'écran cette fois-ci, puisqu'on parle d'une enquête de l'Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation sur les comportements alimentaires des Français. L'enquête met d'abord en évidence la consommation insuffisante de fruits et de légumes et l'usage excessif de sel, mais surtout, et c'est là où on retrouve notre sujet, la sédentarité qui progresse de manière alarmante selon les scientifiques, qui notent donc l'explosion en 7 ans du temps passé devant les écrans. Aurélie Kiffer.
Et oui, durant cette période, le temps moyen passé quotidiennement devant un écran pour les loisirs a augmenté de 20 minutes chez les enfants et de 1h20 chez les adultes. La sédentarité, le fait de rester longtemps immobile, concerne 2/3 des adolescents de 15 à 17 ans et plus de 80% des adultes. Et le problème, c'est quand sédentarité et inactivité physique se conjuguent, augmentant le risque d'apparition de pathologies comme le diabète, l'obésité ou les maladies cardiovasculaires. Cette fois, 1/3 des Français sont concernés. Sur ce point, les plans nationaux mis en œuvre depuis 2001 ont donc clairement échoué. Pour l'ANSES, les efforts de pédagogie doivent être renforcés, notamment à destination des catégories sociales les moins favorisées. Et l'agence propose qu'on ajoute aux recommandations du programme national Nutrition Santé, comme manger, bouger, manger 5 fruits et légumes par jour, qu'on ajoute donc un repère spécifique sur la sédentarité. Mais l'ANSES fait part aussi d'autres inquiétudes. Non seulement nous mangeons trop de produits agroalimentaires industriels, ce qui fait que, en fait, nous ne savons pas toujours précisément ce que nous mangeons, mais en plus, nous ne sommes pas assez vigilant sur la sécurité sanitaire des aliments. La température du réfrigérateur devrait être à 4 degrés. Elle est dans 43% des foyers supérieure à 6 degrés. Et la consommation de produits périmés semble de plus en plus fréquente. Alors un petit rappel, à consommer de préférence, c'est une recommandation. Le yaourt peut rester encore quelques jours bien au frais dans votre frigo. En revanche, la DLC, date limite de consommation, ne doit pas être dépassée.
Merci Aurélie Kéfer. Donc vérifiez bien vos réfrigérateurs. 4 degrés, dites-vous, c'est la température qu'il convient pour conserver les aliments. Manger, bouger. Écoutez France Culture, on parle de politique maintenant avec cette recomposition du paysage politique qui se poursuit. Le bureau politique des Républicains qui s'est transformé hier en conseil de discipline et qui a finalement choisi de ne pas trancher dans le vif. La décision sur l'éventuelle exclusion des 6 responsables LR pro-Macron a donc été renvoyée à l'automne. Concrètement, il y a une commission qui est chargée d'instruire le cas des 6 accusés qui vont être entendus par les membres de cette commission. Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour Antoine.
Demi-mesure apparemment, mais qui signe quand même nettement la fin de cette alliance entre les deux tendances de la droite qui s'étaient traditionnellement alliées et qui ainsi pouvaient arriver au pouvoir.
Oui, en réalité la décision en demi-teinte d'hier soir, qui en apparence semble être une manière de ménager la chèvre et le chou, est beaucoup plus sévère qu'il n'y paraît. Certes, le bureau politique de Les Républicains n'a pas décidé d'exclure du parti les ministres de droite du gouvernement Macron et les députés qui les soutiennent à l'Assemblée, mais il a dressé ce constat qu'ils se sont d'eux-mêmes mis à l'écart de leur formation politique et par conséquent, s'ils veulent y revenir ou y rester, ils devront, dans le courant de l'été, venir s'expliquer devant une commission nommée hier soir. Commission composée de deux ex-ministres, Jean Leonetti, Patrick Ollier, et d'une ex-députée, Isabelle Le Callennec, qui seront donc chargés de statuer in fine sur leur sort. Mais concrètement, vous imaginez une seconde le Premier ministre ou un autre ministre ou même un député du groupe Les Constructifs aller, comme on va à Canossa, au siège du parti, demander pardon d'avoir quitté ses anciens amis et déclarer qu'il reste fidèle à la droite d'opposition tout en continuant à soutenir Emmanuel Macron. C'est impossible. Et de fait, cette décision hier soir est une exclusion qui ne dit pas son nom, qui se fait en apparence dans la douceur, mais qui en réalité est très brutale. Alors pourquoi cette apparente douceur ? Parce qu'il faut donner l'image d'une famille politique encore unie en vue des élections sénatoriales au mois de septembre. Il ne faut pas prendre le risque de fâcher ou d'effrayer les grands électeurs qui se retrouvent sur la ligne d'une droite centriste et humaniste. D'ailleurs, on a vu largement à la manœuvre dans cette affaire les grandes figures du Sénat, Gérard Larcher, Roger Karoutchi et même Bruno Retailleau. Et pourquoi brutal en réalité ? Parce que c'est une cassure historique. C'est tout le travail d'union des droites réalisé par Jacques Chirac et par Alain Juppé avec, au bout du compte, en 2002, la création de l'UMP qui est en train de voler en éclats. Il faut bien considérer que pour accéder au pouvoir, les grands partis de gouvernement n'ont jamais réussi à s'imposer en solitaire. Ils ont toujours passé des alliances, les socialistes avec les communistes et la droite bonapartiste avec la droite orléaniste. La spécificité en France étant que ces alliances se réalisaient soit à droite, soit à gauche de l'échiquier politique. Là, avec l'avènement du macronisme, c'est tout ce système d'alliance qui explose. Système où l'on mettait de côté ce qui divise et l'accent sur ce qui rassemble. Et dès lors, les seules forces crédibles d'opposition sont d'un côté une gauche radicale et de l'autre une droite tout aussi radicale.
CQFD. Merci Stéphane Robert. Les premiers éléments de l'enquête confirment le suicide du juge Jean-Michel Lambert, celui qui avait mené les premières investigations sur la mort de Grégory Villemain au début de sa carrière. Le corps inanimé du magistrat qui a 65 ans actuellement. Un sac en matière plastique sur la tête a été découvert à son domicile hier, proche du Mans, où il avait pris sa retraite. Jean-Michel Lambert, il avait 32 ans quand l'affaire a éclaté. Grégory Villemain, l'affaire a éclaté. Donc, il l'avait instruite de 84 à 1987 sous une pression médiatique intense, alors qu'il occupait son premier poste, c'était à Épinal. Le juge Lambert, qui incarnait donc à l'époque la solitude du juge d'instruction sur laquelle le législateur s'est penché par la suite, mais sans beaucoup de résultats, même s'il y a eu quelques propositions de réforme, Florence Turme.
Oui, dans l'affaire Grégory, considérée comme un véritable cas d'école du fiasco judiciaire, l'État sera même condamné pour dysfonctionnement de la justice. Le juge Lambert témoigne dans la presse du poids, du gouffre, dit-il, de sa solitude. En 2001, l'affaire Outreau renvoie à la même problématique. Cette fois, le juge s'appelle Fabrice Burgot. C'est aussi son premier poste, 5 mois après sa sortie de l'École nationale de la magistrature. Le procès débouche sur l'acquittement de la majorité des accusés renvoyés aux assises. Nouveau fiasco judiciaire, donc, sur lequel se penche une commission d'enquête parlementaire. Elle préconise de mettre fin à cette solitude du juge d'instruction en instaurant la collégialité de l'instruction. Une loi est bel et bien votée en 2007, mais qui se heurte très vite au principe de réalité, raison budgétaire et politique conjuguée. Il faudrait 300 magistrats supplémentaires pour pouvoir l'appliquer, quand par ailleurs monte le débat sur la volonté de supprimer tout simplement la fonction du juge d'instruction. Alors certes, il existe aujourd'hui ce que l'on appelle la co-saisine, la possibilité que plusieurs magistrats travaillent sur un même dossier, mais c'est le cas surtout dans les juridictions spécialisées, pôle antiterroriste ou financier notamment. Dans les petits et moyens tribunaux, le juge est toujours seul, confirme plusieurs représentants de la profession, avec toujours de jeunes magistrats mutés à un premier poste isolé à leur sortie de l'ENM. En 2014, la loi de 2007 est censée enfin entrer en vigueur, mais les restrictions budgétaires empêchent toujours la création du nombre de postes nécessaires. L'ancienne garde des Sceaux, Christiane Taubira, proposera que les décisions les plus importantes puissent être prises par 3 juges ou bien que la collégialité intervienne quand le juge ou les parties le demandent. Une formule à la carte, intégrée au projet de loi sur la justice du XXIe siècle. Mais le 24 mai 2016, le gouvernement présente un amendement qui supprime la collégialité de l'instruction. Amendement adopté en première lecture par l'Assemblée nationale. Suicide assisté en quelque sorte pour une loi désormais morte et enterrée.
Florence Thurme, merci. La météo ensoleillée près de la Méditerranée, Mossa d'ailleurs, température de 19 à 23 degrés de l'Alsace à la Manche et jusqu'à 35 à 37 degrés encore sur la Provence. Alpes, Côte d'Azur, édition réalisée avec Yacine Bouzard qui s'achève. Prochain journal 18h avec Catherine Dutu.